Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec la langue de la présentation.
Bonsoir. Clôture la semaine dernière de la conférence sur l'exploitation illégale de ressources naturelles en RDC et dans la région des Grands Lacs. Malgré l'existence de plusieurs textes en la matière, l'exploitation illégale des ressources continue sans désemparer. Qu'est-ce qui bloque l'application de ces textes? Et que faut-il pour que les communautés puissent réellement profiter de ces ressources? Nos invités dans cette émission sont professeur Mac Ndouba, conseiller à la coopération technique allemande dans le projet de bonne gouvernance au secteur des ressources minérales. Professeur, bonsoir. Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Eux, c'est Fidel Baba, la députée nationale MLC et membre de la commission de ressources naturelles à l'Assemblée nationale, et Baudouin Amouli Kabarouza, coordonnateur national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Mais vos réactions, nous les avons déjà. Spécifiquement, de Lubumbashi au Katanga. Arrêter l'exploitation illégale de ressources naturelles en RDC, c'est un rêve aussi longtemps que les grandes personnalités elles-mêmes sont impliquées pour s'enrichir. Jean-Marc de Guimena à l'Équateur, nous ne cessons de déplorer le fait qu'il y a beaucoup de conférences organisées dans plusieurs domaines, mais sans impact dans le Congo profond. Pourquoi devrions-nous croire à cette dernière qui ne vient que rallonger la liste? C'est un problème de volonté politique. Merci de nous suivre à Bukavu dans la province du Sud-Kivu sur 95.3 FM et partout au monde sur radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'exploitation illégale de ressources naturelles et les droits économiques, sociaux et culturels en RDC étaient au centre d'une conférence qui réunissait la semaine dernière à Kinshasa des experts nationaux. Sa mission, discuter et proposer des moyens pour éradiquer complètement l'exploitation illégale de ces ressources en RDC, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Il s'agit aussi de réfléchir sur la façon dont les ressources naturelles peuvent profiter aux communautés locales. Cette conférence était organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Malgré l'existence de plusieurs textes sur la question, on constate que l'exploitation illégale de ressources naturelles continue sans désemparer. Qu'est-ce qui bloque l'application de ces textes? Louis-Marie Boaka, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, répond au micro d'Agathe Mponaïlema.
Si un pays ratifie un texte international, c'est une marque d'engagement et de bonne foi, puisque les pays sont libres d'adhérer ou non à tel ou tel instrument juridique international. Mais la question de la mise en œuvre ne dépend pas seulement de l'État, mais de tous les acteurs. Tous les acteurs devaient concourir à la mise en œuvre de la substance de ces conventions. C'est pour cela que nous avons saisi le ballon au rebond pour notre part d'essayer de travailler de concert avec les techniciens, les experts qui sont là pour orienter les décideurs politiques. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui bloquent la mise en œuvre tel ou tel texte, mais aucune cause légitime n'est jamais perdue. On doit se mobiliser pour aboutir.
Professeur Mac Ndouba, je rappelle que vous êtes conseiller à la coopération technique allemande dans le projet de bonne gouvernance au secteur des ressources minérales. Avant d'aborder la question du jour dans cette première partie, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette conférence, professeur, parce que vous y avez pris part?
Oui, monsieur Long, je suis très fier d'avoir été encore une fois sur Radio Capi et puis je participe à une émission qui a pour moi une grande importance compte tenu de mes recherches. Je suis économiste et je voudrais me spécialiser dans le secteur des ressources naturelles. Et comme vous l'avez dit, je travaille dans la bonne gouvernance. Oui, nous avons été à cette conférence et une conférence de plus. Comme d'habitude, j'ai aimé tout à l'heure lorsque vous avez parlé des réactions de vos auditeurs. J'ai aimé, il y a un auditeur déjà qui a dit que c'était une conférence de plus. Mais elle était importante parce qu'il faut toujours que nous mettions à l'actualité l'information qui concerne la gestion des ressources naturelles et surtout l'exploitation illégale de ces ressources dans notre région des Grands Lacs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les participants ont suffisamment été bien informés sur cette exploitation illicite et que il y a des résolutions qui ont été prises et beaucoup de participants désirent vraiment qu'on mette fin à cette exploitation. Donc, bref, il faut retenir qu'il y a la volonté de la société civile de pouvoir s'impliquer dans l'arrêt de l'exploitation illicite. Mais il reste aussi à retenir de cette conférence que ces résolutions ne seront-elles pas une lettre morte et seront placées comme d'habitude et puis on parlera d'une prochaine conférence.
Alors, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une conférence de trop pour rien.
Non, je ne veux pas dire de trop pour rien. On a eu beaucoup d'informations, on a vu la volonté de M. Baudouin Amouy et des organisateurs de pouvoir tenir informé le public et surtout la société civile de sa responsabilité de pouvoir intervenir afin que on mette fin à l'exploitation illicite.
Alors, parlant des textes de loi, on a suivi tout à l'heure Louis-Marie Boaka qui disait que le pays a souscrit à beaucoup de pactes, beaucoup de textes sur le plan international, mais aussi en interne. Il y a beaucoup de lois quant à l'exploitation de ressources naturelles. Mais qu'est-ce qui bloque finalement dans l'application de ces lois, d'après vous, professeur?
Oui, Madame l'a si bien dit, énormément de bonne volonté de signer des textes, énormément de bonne volonté, une grande bonne volonté politique de pouvoir adhérer à des conventions, adhérer à des organisations régionales, sous-régionales, dans la matière qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui bloque, la question vaut son pesant d'or, ce qui bloque, moi je pense que elle l'a dit, je lui emprunte le nom.
C'est M. Boaka.
C'était M.
Louis-Marie Boaka.
Oui, je vous demande pardon. Il l'a dit en disant que ça demande la participation de tous. Et une participation effective de tous, pas seulement de ceux qui les signent, mais aussi de ceux qui assistent, de ceux qui participent. Il y a énormément d'intervenants dans l'exploitation des ressources minérales dans notre région, il faudrait qu'il y ait une volonté conjuguée d'ensemble et tout le monde qui regarde dans la même direction.
Mais professeur, quand on dit qu'il faut la participation de tous, il faut établir les responsabilités, n'est-ce pas là une façon de se cacher derrière le mot?
Oui,
parce qu'il y a des décideurs, il faut le dire quand même.
Donc, j'aime ça. J'aime ça parce que j'ai toujours aimé quand on dit qu'on se cache derrière les mots. C'est vrai, il y a beaucoup de mots. Il y a des mots qu'on utilise, il y a des mots qu'on tourne et on retourne. Malheureusement, l'applicabilité de ces mots est vraie. Alors, maintenant, je voudrais dire qu'on se cache, non. On ne se cache pas, mais ce sont des mots courants, il faut les utiliser pour s'exprimer. Mais ce n'est pas, on ne se cache pas derrière.
Nous saluons l'entrée dans ce studio de Baudouin Amouly Kabarouza, coordonnateur national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Monsieur Amouly, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, rapidement, j'ai posé pratiquement la même question au professeur Ndoumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous de cette conférence?
Bon, nous avons décidé d'organiser cette conférence avec le bureau du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les droits de l'homme pour justement lancer dans l'opinion nationale le débat sur la question de l'exploitation des ressources naturelles et la question des droits économiques et sociaux des populations de la RDC. Nous avons pensé que le moment était indiqué pour lancer cette discussion avec les experts nationaux, puisque il est prévu au mois de novembre un sommet de chefs d'État de la région des pays de la région de la Guinée Grand Lac sur la question justement de l'exploitation illégale des ressources naturelles et les sociétés multinationales. comme vous le savez, il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies sur la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles à l'est de la RDC, qui ont épinglé pas mal d'acteurs dans les pays limitrophes de la RDC, mais également qui ont épinglé le rôle des multinationales. Et donc, nous avons estimé que c'est important de voir les conséquences graves de ces actes, de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et les conséquences sont tout naturellement les mauvaises conditions de vie des populations de la RDC, les violations massives des droits humains, des actes de criminalisation de l'économie de la RDC. Tout cela, nous avons essayé d'explorer en tant qu'experts nationaux et nous avons fait des recommandations à la fois aux institutions de la République, mais également aux États membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac.
Alors, pratiquement la même question qu'au professeur Matindoumba, n'est-ce pas une conférence de trop?
À mon avis, il n'y a jamais eu de conférence de trop. Si il n'y avait jamais de conférence, nous n'aurions pas évolué dans le processus de paix dans notre pays. Nous avons eu, à chaque fois que nous avons eu de gros problèmes dans notre pays, nous avons décidé de nous rencontrer, décidé de faire rencontrer les acteurs, les protagonistes, les acteurs les plus importants sur les qui peuvent régler le problème. Et nous pensons ici que, en ce qui concerne le sommet des chefs d'État, c'est pas une conférence de trop. Il est important que les chefs d'État se réunissent, regardent ce problème. Il y a eu des tas de rapports sur ces questions. Il y a eu des recommandations que les experts des Nations Unies ont dégagées. Il y a plusieurs institutions internationales qui ont également fait des rapports sur les problèmes. Des ONG internationales comme Global Witness, etc., qui ont travaillé sur ce problème. Je crois qu'il y a plein de rapports. Et nous pensons qu'il est temps que, effectivement, non seulement que les gouvernements se penchent sur ces rapports, mais surtout les plus hautes autorités de nos États. Et pour cette occasion, les chefs d'État ont décidé de se rencontrer. Et donc, je crois que aussi à ce niveau, les chefs d'État se rencontrent, ce n'est jamais de trop. Il y a des décisions à prendre, et c'est important qu'ils prennent ces décisions. Ces décisions doivent avoir un impact sur la population.
Alors, Baudouin Mouly, le nombre des lois équivaut pratiquement à celui des rapports, mais pourquoi ces lois, pardon, ces textes, ces lois ne sont-elles pas appliquées?
Je crois que ces lois doivent être prises, ou des recommandations doivent être prises, ou des politiques nationales et régionales doivent être prises. C'est important. C'est important parce que justement, face à un problème, il faut que les décideurs prennent des décisions. Il faut que les parlementaires votent des lois.
Mais
maintenant, si l'application pose problème, ça c'est autre chose. Il appartient justement au Parlement d'examiner aussi l'état d'application des lois, l'état d'application des décisions, des lois qu'ils ont votées. Ça, c'est leur responsabilité aussi d'examiner. Mais il appartient à la société civile aussi de s'impliquer et de faire le monitoring de l'application de ces lois et de dénoncer là où, justement, les lois ne sont pas appliquées. Il appartient aux partis politiques d'interpeller en permanence. C'est leur devoir, en tant que politiciens, de suivre justement la gouvernance de l'État. Et c'est à eux d'interpeller le gouvernement sur l'obligation la mise en œuvre des décisions de chefs d'État, des lois qui sont votées par les parlements et des décisions du gouvernement.
Voilà, nous avons un député national dans cette émission, c'est l'honorable Fidel Babala, député MLC et membre de la commission de ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Honorable Babala, vous êtes en ligne.
Bonsoir, je suis Aline.
Bonsoir, honorable. Je pense que vous avez suivi le professeur Marc Ndoumba et Baudouin Amouli. Beaucoup de textes, vous avez voté beaucoup de textes, hein, mais pourquoi ces textes finalement ne sont pas appliqués?
Merci pour la question. Je voudrais apporter ma petite contribution au débat qui est important de ce soir. Le pays regorge, dit-on, de minerais en quantité incroyable et en variété incroyable. Mais la la question primordiale, la cause, c'est la méconnaissance de notre propre richesse. Le professeur qui est là-bas, j'ai oublié son nom.
Le professeur Ndumba.
C'est bien ça?
Le professeur Ndumba.
Le professeur Ndumba a posé la question, mais je crois qu'il a effleuré la question en parlant plus des conséquences que des causes. Aujourd'hui, il n'y a aucun inventaire de minerais du pays. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui de notre patrimoine minier et minéral provient de l'époque belge. Aucun inventaire n'a été fait depuis l'indépendance de ce pays. On vient de fêter 50 ans, on a festoyé, c'est bien, mais il faut faire un inventaire pour savoir ce dont on dispose comme minerais. Je donnerai un exemple pour illustrer mon propos. La connaissance que le pays produisait le coton est venue en fait de la guerre. Les services de mines n'avaient pas connaissance que le pays était producteur de coton. Et dès là à ce que le groupe armé puisse utiliser cela pour financer les guerres, a doublé par le fait de l'absence de l'État, ça a criminalisé notre économie en termes de secteur minier. Et je pense que la question, pour revenir rapidement à la question, en ce qui concerne les lois sont là, les lois doivent être pratiquées, appliquées pour qu'on prenne l'expérience de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de façon à pouvoir apporter des correctifs. Mais quand on regarde la manière dont le secteur politique et exécutif du pays, pas seulement maintenant, depuis tout temps, a laissé les choses évoluer, en fait, on a, l'exécutif a participé à la criminalisation de l'économie, en enfouissant les propres lois du pays. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui un problème assez important, donc c'est de démoralisation des types en fait des opérateurs miniers. Et je parie que notre collègue, notre participant de ce soir qui a participé à la conférence, je crois que c'est le monsieur Amoury, il serait difficile aujourd'hui de faire un relevé exhaustif de tout ce que le pays produit en termes de minerais. De faire un inventaire de tous les producteurs de ce pays.
Alors, honorable Babala, vous avez déjà souligné l'aspect absence d'inventaire de ressources naturelles au niveau du pays. Peut-on à ce niveau parler d'absence de volonté politique quant à l'application de loi?
Merci pour la question. Je crois que ce pays a signé depuis l'indépendance un certain nombre de traités qui ne sont pas appliqués. Il faut qu'à un moment qu'on puisse s'arrêter. C'est bien qu'on fasse de forums, de conférences pour échanger l'information. Le Congo n'est pas sur une autre planète, c'est dans la planète Terre. Et il est important qu'on puisse avoir des échanges avec d'autres opérateurs d'autres pays, de façon à pouvoir accroître nos connaissances. Mais à un moment donné, il faut que le pays puisse s'arrêter pour faire un bilan de sa participation dans des organisations internationales, les traités qu'on a signés, quels sont les bénéfices que les pays en tirent. Je puis comprendre que le thème du débat de ce soir, c'est d'abord la criminalisation de l'exploitation minière et les bénéfices que les populations en tirent. Il faut qu'à un moment donné, et la société civile, et la classe politique, et les spécialistes puissent s'asseoir, faire un bilan de notre participation dans de diverses organisations internationales, ainsi que tous les traités que nous avons signés, les engagements internationaux auxquels nous avons souscrit. Ça, c'est absolument important.
Merci, honorable Baudouin Amouli. L'honorable Babala parle de l'absence d'inventaire quant aux ressources naturelles. Il fait un bilan, dresse un bilan de la participation de la RDC aux différents forums. Et j'ai ajouté, est-ce un problème de volonté politique par rapport à l'application de ces?
Bon, je crois que j'ai bien suivi le point de vue de l'honorable. Je crois que je le respecte beaucoup, bien sûr. Mais je dois dire que probablement en ce qui concerne l'inventaire, on devrait parler plutôt de l'actualisation de l'inventaire. Je crois que les données scientifiques existent dans le pays. Par exemple, en ce qui concerne le coltan, c'est clair, c'est inventorié dans les ressources naturelles au niveau du service d'études du ministère des Mines. c'est très clair, c'est le la colombo-tantalite, n'est-ce pas? Simplement, c'est coltan, n'est-ce pas? Connu sous le nom de coltan. C'est la colombo-tantalite, cela est bien connu dans le pays, cela est inventorié depuis bien longtemps. Mais la colombo-tantalite a pris de la valeur marchande au niveau de l'économie mondiale tout à fait récemment. Justement, avec le développement des technologies, des technologies de l'espace, la colombo-tantalite a énormément pris de la valeur.
Et donc l'inventaire existe, mais il faut l'actualiser.
Il faut l'actualiser sûrement, mais ça existe. Ça existe bel et bien au ministère des Mines. Je crois qu'il faut bien s'y rendre. D'ailleurs, Monsieur le ministre est en train de faire, d'après ce que j'ai vu, une espèce de d'exposition des différents minerais qui sont dans notre pays. Il me l'a montré, j'ai vu, donc il est en train de faire venir quelques échantillons, justement pour que, au ministère des Mines, les gens puissent voir les différents produits qui sont dans notre pays. Mais il faut actualiser, je suis d'accord avec lui que tout n'est pas connu, et il faut actualiser régulièrement, et il faut en effet que notre pays se dote de la capacité de recherche géologique plus futée, et de pouvoir disposer de l'ensemble des données sur les études minières que certaines sociétés font et qui, malheureusement, amènent des données à l'extérieur de notre pays.
Et par rapport à la volonté politique.
S'agissant de la question de la participation dans les institutions internationales et même de la volonté politique, je crois que il y a déjà eu, à certains moments de l'histoire de notre pays, des réunions au ministère des Affaires étrangères où les ambassadeurs ont eu à se réunir pendant 3-4 jours pour faire un bilan de la diplomatie internationale de notre régionale internationale de notre pays, et des actes existent. C'est vrai, il faut de temps en temps faire des réunions sur ces questions, et je crois que c'est la responsabilité du ministre des Affaires étrangères de faire de temps en temps des évaluations de notre diplomatie internationale. C'est la responsabilité du monsieur le ministre de la coopération régionale internationale de faire le bilan de ce type de la coopération internationale de notre pays. Mais on n'a pas besoin de s'arrêter nécessairement pendant longtemps. On a besoin de faire ce type de travail de manière régulière, de manière appréciée, n'est-ce pas, ce qui est en train de, comment nous sommes en train d'évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas de volonté politique? J'ai l'impression que, aujourd'hui plus que jamais, il y a de plus en plus de volonté politique de faire changer la politique minière de notre pays. Les discussions qu'il y a aujourd'hui avec les compagnies internationales, tout le débat sur la révision des contrats miniers, je crois que ça montre que, quelque part, il y a une volonté de mettre de l'ordre dans le secteur minier. Et nous avançons. Je suis au regret j'ai lu dans la presse il y a quelques jours que le grand programme qui s'appelle Promine, qui devait aider à la restructuration et à la relance du secteur minier dans notre pays, malheureusement, éprouve quelques difficultés à la suite des dialogues qui ne marchent pas très bien avec la Banque mondiale sur cette affaire. Mais c'était également la volonté de notre pays de s'engager et de mettre les moyens avec la participation de la communauté internationale. Mais il faut plus. Je suis d'accord, il faut plus de volonté et il faut qu'on s'engage davantage.
Merci, Bobin Mouli. Professeur Mac Doumba, je vais vous lire un extrait du message de la Conférence épiscopale nationale du Congo au peuple congolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous saluons les efforts que la RDC déploie de plus en plus pour assainir le secteur des ressources naturelles, notamment la révisitation des contrats miniers, la certification prochaine des produits forestiers et non ligneux. Nous regrettons le fait que ces efforts ne soient pas souvent le fruit de notre propre initiative, mais celle des partenaires au développement, qui misent plus sur leurs intérêts que ceux des Congolais et qui cherchent par ricochet et à tout prix à s'aménager un cadre juridique pour opérer dans une légalité sans justice. Peut-on dire que les multinationales pèsent tellement sur le gouvernement que l'application des textes pose problème?
Merci. Je voudrais, avant de répondre à cette question tout de suite, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour que nous puissions recentrer le débat pour lequel nous sommes invités. Je pense que nous n'allons pas. J'ai bien noté, M. Baudouin l'a dit tout à l'heure, que Donc, la conférence avait réuni les experts nationaux pour traiter d'un sujet régional. Alors, dans ce cadre-là, nous ne devons pas, autour de ces tables, trop centraliser le problème de l'exploitation illégale sur la République. Que nous parlions de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut rester autour du thème qui était central, le thème régional.
C'est le thème assez parmi tant d'autres.
Oui, d'accord. Alors, je voudrais aussi dire que, avant de parler de ce sujet, je voudrais parler de la volonté politique et des lois qui sont votées. Parce que j'ai entendu l'honorable Benalla, que je connais très bien, que je respecte beaucoup, dire que, on dirait, il se dégage de la responsabilité de l'Assemblée nationale du législateur dans les lois qui sont votées. Vous savez très bien que, en fait, moi, je pense que nous n'avons pas la culture de suivi des actes que nous posons. Et parce que l'Assemblée qui vote beaucoup de lois ne suit pas leur application sur le terrain. Lorsque vous avez vu avec la pollution aux États-Unis, immédiatement l'Assemblée a voté une loi obligeant l'exécutif de suivre l'arrêt ou se défait. Combien, même quand on fait l'interpellation, on n'a jamais eu un rapport succinct de l'Assemblée qui dit « Voici, nous avions voté autant de lois, voici celles que nous sommes en train de suivre pour leur application. » Et ça, notre Assemblée vote et envoie à l'exécutif, et l'exécutif ne suit pas l'Assemblée non plus. Et on vient à l'autre mandat et on vote encore des lois. C'est cela le problème. La responsabilité, moi je pense, elle est aussi en grande partie de l'Assemblée nationale. Alors, quant à ce texte que vous avez lu tout à l'heure,
un extrait du message de la CENCO au peuple congolais.
Oui, moi je pense que ce n'est pas vrai que on puisse dire que le fait qu'on nous envoie vers la bonne gouvernance dans le secteur des mines, l'initiative vient de l'extérieur. Non, c'est cela aussi. Nous regarder comme si nous ne faisons rien, comme si les décideurs ne font rien. Non, il y en a beaucoup. Et les décideurs, il ne faut pas seulement regarder le chef de l'État, le premier ministre, les ministres. Il faut regarder le filon, il va très loin. Vous avez aussi aujourd'hui M. Baudouin, qui est un grand responsable régional. Il est en fait l'émanation des décideurs pour pouvoir regarder clairement. Il vient de parler des promis. Je voudrais aussi dire que on a oublié la bonne volonté, il faut parler des litiges. C'est aussi une bonne volonté du gouvernement d'aller dans la bonne gouvernance. Et nous avons souscrit notre pays, en fait, à cette initiative afin qu'on puisse regarder de manière beaucoup plus transparente à l'exploitation des ressources minières. Et ça, c'est une bonne volonté des politiques aussi. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de bonne volonté. Il y a la bonne volonté. Mais la question fondamentale, il faudrait revenir là-dessus, la question fondamentale, c'est celle que vous posez. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter l'exploitation? Oui, c'est cela la question fondamentale. J'aurais aimé qu'on passe tout le temps à ce qu'on recherche des raisons. Tout au début, je n'avais pas seulement parlé des conséquences, mais je voulais dire quelles sont les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à appliquer les textes des lois qui sont votées afin qu'on puisse arrêter.
Puisque vous en parlez, professeur, quelles sont ces raisons?
Non, je ne peux pas dire que moi je détiens le monopole de les énumérer ici. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a le problème fondamental, c'est un problème de culture. Ce n'est pas un problème de manque d'appliquer des lois. C'est un problème de culture. J'ai lu un texte qui mettait la différence entre les pays développés et les pays sous-développés ou en voie de développement. On est revenu seulement sur le problème des cultures. Lorsqu'on ne peut pas dire, lorsqu'on ne peut pas faire confiance, lorsqu'on ne peut pas déléguer, on ne peut pas arriver à appliquer des lois qui sont élues, bonnes soient-elles.
Honorable Babala, vous avez suivi le professeur Doumba et Baudelin Amouli. Comment vous réagissez à leurs observations?
C'est un plaidoyer pour deux mots qu'ils sont en train de faire. Je voudrais prendre un exemple en ce qui concerne la question sur l'absence de volonté politique. Je pense effectivement qu'il y a tant de volonté politique. Et là, c'est caractérisé par deux choses. Hein, la pratique de pouvoir, de la gouvernance, et la volonté qui se traduit par des actes posés par le gouvernement. Je prends un exemple, le fameux contrat chinois que nous avons signé. Il y avait de l'eau dans le pays qui organise la contestation des marchés publics. Le gouvernement était le premier à pouvoir violer la loi de manière consciente. Au lieu que ce soit les ministres et les ministres qui signent ce contrat, on a vu le ministre des infrastructures et les infrastructures signer ce contrat, l'appel au conseil social du gouvernement. En ce qui concerne la pratique, les actes plutôt pour concrétiser la bonne volonté du gouvernement de pouvoir contrôler la gestion de différents ministres dans le pays. Notre ami Amélie a parlé tout à l'heure de l'inventeur de l'actualisation. Je voudrais rappeler que dans ce secteur, depuis plusieurs années, le budget alloué à la recherche, que ce soit pétrolière ou minière, par le gouvernement pour connaître finalement ce potentiel du minier pétrolier est quasiment dérisoire. Nous nous révélons pratiquement partenaires étrangers qui font ce qu'ils veulent. Je prends un autre exemple pour illustrer la force de l'État, la production pétrolière qu'il y a à l'est du pays. À l'ouest du pays, je veux dire, on et on sort. Le contrat date des années 60, c'est vrai. Mais le contrôle, c'est défaut de contrôle de charges opératoires. C'est défaut de charges que l'État aujourd'hui ne sait pas quelle est la réalité de redevances qui reviennent de par ces contrats. Les charges d'opération opèrent la plus grande partie des ressources de l'État. Et il n'y a aucune action qui est menée sur ce plan. J'en reviens un peu à la responsabilité que le professeur Ndouba se faisait sur le Parlement. Effectivement, nous votons les lois. Nous votons les lois, nous sommes censés contrôler le gouvernement, mais sachez que, en ce qui me concerne, je fais partie d'une opposition par définition minoritaire.
Honorable Babala.
Oui.
Allez-y, résumez-vous, je vous en prie.
Toutes les initiatives que l'opposition prend pour donner une vie à la démocratie dans notre hémicycle sont bloquées par la majorité. Tous les contrôles faits contre les membres du gouvernement sont bloqués. Toutes les recommandations faites par le Parlement au niveau du gouvernement sont bloquées. À un moment donné, il faut que les responsables politiques puissent tirer les conséquences.
Merci.
Et surtout la personne qui est censée veiller à la bonne application de la Constitution et le chef de l'État, il doit pouvoir en tirer les conséquences aussi.
Merci, honorable. Au vu des potentialités immenses dont regorge la RDC, il est important que l'État puisse en tirer le meilleur profit, ceci afin que les populations locales jouissent des droits économiques, sociaux et culturels en rapport avec ces richesses. Mais comment concrétiser ce souhait, Raphaël René Yuro, coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme dans le Nord Kivu, donne quelques pistes de solutions au micro d'Agathe Mpona.
Par une meilleure organisation, par un établissement plus accentué de l'autorité de l'État, les zones minières, comme vous le savez, sont très retirées des centres urbains. Et cette situation géographique qui se mêle à une situation d'insécurité globale avec la présence de plusieurs groupes armés et de plusieurs éléments dans les zones minières n'est pas pour faciliter la sécurité. C'est une situation également qui empêche les investissements. Alors attirer les investisseurs, c'est également faire un pas dans la réalisation des droits socio-économiques parce que ça permet pas de lutter contre le chômage, mais ça permet de résoudre un problème d'accès au travail. Je pense que c'est un secteur où l'État doit se pencher abondamment, mener des réflexions en profondeur, tirer les conclusions de certains rapports, comme les rapports Mutamba, les rapports Lutungula, dans les rapports de l'Assemblée nationale du Sénat, de la RDC, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les dérives dans ce secteur-là.
Honorable Babala, je reviens vers vous. Que faut-il pour que les communautés locales puissent bénéficier des retombées de l'exploitation de ressources naturelles?
Merci pour la question. Je crois que c'était le sujet phare de cette émission. Autant que je puisse m'en souvenir, il y a dans la loi minière une disposition qui oblige tout opérateur de faire des rétrocessions au niveau des localités où sont produites les minerais. Mais depuis quelques années, depuis la promulgation de la loi minière, cette disposition est appliquée de manière tout à fait erratique. Et avec les concours indirects de l'État. Quand je parle de l'État, je parle du gouvernement central. qui essaie de tester tout ce qu'il y a comme intérêt pétrolier ou minier issu de contrats au profit du gouvernement central en délaissant les localités et les provinces. Ça me rappelle la question de la rétrocession des ressources budgétaires de 40%. Et c'est exactement la même conduite qui est faite par le gouvernement central pour prendre le droit qui revient aux provinces. De cette façon, on ne pouvait pas faire en sorte que les populations locales puissent bénéficier des minerais ou du pétrole produit dans leur sol.
Soyez plus concret, honorable.
La loi prévoit une quotité en termes de redevances qui doit revenir aux localités producteurs de minerais ou de pétrole. Et cette loi n'est pas appliquée à ce jour de manière, je dirais, stricte pour que, je crois que ce serait 10% de redevances qui doivent revenir aux localités. Et cette loi n'est pas appliquée, c'est le fait de notre propre gouvernement.
Merci, honorable. Modéa Mouli, qu'est-ce qu'il faut pour que les communautés, les populations puissent bénéficier de cette exploitation, concrètement?
Concrètement, je crois que la première chose a été dite par M. Yaoufis. Hein. Il a dit clairement qu'il y a de l'insécurité dans les zones d'exploitation minière. La première chose, c'est qu'il faut débarrasser les zones minières de groupes armés. Que ce soit les groupes armés d'origine nationale ou les groupes armés d'origine étrangère. Il faut absolument que notre armée débarrasse ces hommes des groupes armés. Et il est important que notre armée aussi ne s'incruste pas dans les zones d'exploitation minière et commence à harceler les populations, tel que nous le savons.
Donc le premier préalable, c'est la sécurité.
Il faut impérativement que la sécurité soit rétablie dans ces zones. C'est important parce qu'il y a des tas de violations des droits humains qui bloquent tous les droits à la vie de la population. C'est important que ça soit garanti.
Par-delà la sécurité.
Deuxièmement, en effet, par-delà la sécurité, comme l'honorable a dit, je crois que effectivement, la loi de code minier, n'est-ce pas, prévoit en effet la répartition des redevances en ce qui concerne l'installation ou l'exploitation dans une zone déterminée par une entreprise des ressources qui sont là. Il y a des taxes qui doivent être payées au niveau local, il y a des contributions au développement qui doivent être libérées, il y a des taxes à payer au niveau provincial ou au niveau national. Je crois qu'il est important que ces taxes soient effectivement payé. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des sociétés, n'est-ce pas, préfèrent ne pas payer ces taxes, justement en s'appuyant sur des politiciens de Kinshasa qui les couvrent. Et ce clientélisme n'est pas acceptable. Je crois qu'il est important aussi de donner la chance à la population locale d'entreprendre. Structurer l'artisanat minier en coopérative et appuyer ces coopératives et permettre à ces coopératives d'avoir accès au circuit financier, au circuit bancaire, de manière
crédit et autres.
Oui, je crois que c'est important. Mais, fondamentalement également, il faut que le gouvernement nous aide à créer la valeur ajoutée sur les ressources naturelles. Nous sommes,
en les transformant sur place,
nous sommes un pays où l'on exploite simplement les ressources brutes. Il faut des usines, il faut créer des emplois. Et là, coup de chapeau au gouverneur de l'Équateur qui a dit récemment, il est important que les usines d'exploitation du bois installent,
merci,
les sociétés installent des usines dans la province de l'Équateur pour créer de l'emploi, pour industrialiser la province.
Merci.
Je crois que c'est important. De la même manière, dans le secteur minier, les autres provinces devraient exiger cela,
merci,
pour que nous ne puissions pas seulement être un pays qui exporte et qui a une population chômage. Ça ne va pas.
Professeur Douba, il y a Augustin Mwango de Kindu, plutôt à Franck Lupungu, de Mbujima au Café Oriental qui dit comment les dirigeants peuvent-ils mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles alors que cela leur profite car ils y sont eux-mêmes impliqués. Augustin Mango de Kalima au Maniema, je pense que les problèmes sécuritaires devraient le plus préoccuper la CPGL, car les groupes armés constituent encore un danger pour la population et aucune exploitation ne peut se faire correctement sans la sécurité, car la RDC semble être la première victime puisque hébergeant sur son sol les groupes armés tant nationaux qu'internationaux. Baudouin Amouli est revenu sur la sécurité et l'implication des politiciens par-delà, professeur, tous ces éléments. Qu'est-ce que vous avez ajouté pour que les populations bénéficient réellement?
Merci. Je ne voudrais pas entrer dans le débat politicien de conflit. Vraiment, M. Amouli est très proche là-bas, il connaît plus que moi les problèmes de sécurité. Moi, je voudrais revenir sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Vous parlez de ce premier rapport ou des rapports annuels que cette initiative produit. Et dans ces rapports, vous allez trouver exactement l'information sur les paiements que les entreprises minières, donc des ressources naturelles extractives, ont payé à l'État congolais. Et l'État congolais publie, déclare aussi tout ce qu'il a reçu au trésor public des entreprises du secteur extractif des ressources naturelles. Et ce rapport est publié pour que la population soit au courant de tout l'argent que les entreprises qui exploitent leur environnement payent à l'État. Et à travers la société civile et le Parlement, ces populations sont maintenant en droit d'exiger dans le budget l'affectation de l'argent provenant de leur région quoi, naturelle. Donc, il faudrait qu'on puisse être en mesure maintenant de beaucoup informer la population que actuellement il existe une structure par laquelle vous pouvez savoir combien d'argent est sorti de votre sol, de votre terre. Et je voudrais profiter pour dire ça à l'honorable Babala qui me suit pour lui dire que nous avons été au Parlement pour leur informer du premier rapport de l'ITIE 2007 avec beaucoup d'écart entre les déclarations des uns et des autres, des régies financières et autres structures de l'État qui sont des services administratifs d'assiette fiscale et les entreprises qui produisent. Pourquoi est-ce que nous sommes allés pour leur apporter ce rapport? Afin qu'ils regardent, parce qu'ils ont dans leur mission pas seulement de voter les lois, mais aussi de contrôler le budget national. Et nous leur avons apporté des écarts, selon, mais je voudrais vous dire qu'aucun député n'est venu à cet atelier de sensibilisation pour savoir combien d'argent ils peuvent contrôler.
Alors, professeur Douma, nous abordons pratiquement la dernière partie de cette émission. Concluez, je vous en prie.
Je voudrais dire que le problème crucial de l'exploitation des ressources est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et avec une bonne volonté et une culture de changement de mentalité. Et enfin, je voudrais que tout le monde sache que le gouvernement a mis des structures en place maintenant, montrant sa bonne volonté pour la bonne gouvernance dans ce secteur.
Honorable Fidèle Babala, vous concluez également, même si vous n'étiez pas à cette réunion organisée par l'ITIE.
Merci pour cette opportunité-là. Je voudrais encore revenir une fois sur la faiblesse de l'État et l'absence de volonté politique de l'État qui caractérise en fait le marasme que nous observons aujourd'hui au niveau du secteur minier. Avec une armée faible, on ne peut pas contrôler le pays. Avec une insuffisance de moyens alloués au service des mines et le service qui est chargé du pétrole, on ne sait pas faire l'actualisation, là je suis d'accord avec la terminologie de M. Amouli, pour actualiser les potentialités de ce pays.
Merci.
Il faut d'abord que nous sachions ce que nous avons avant de pouvoir le proposer pour le mettre en valeur par les étrangers.
Merci, honorable Baudouin Amouli. Un mot en guise de conclusion.
Je pense qu'il est important que nous sachions que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme patrie, comme espace de vie, comme
notre nation. Il est important que nous l'aimions, il est important que nous puissions le défendre.
Merci.
Et il est important que nous puissions demander des comptes.
Merci.
Et que nous luttions pour que ce qui nous appartient, nous appartienne.
Merci, Bobby Amouli. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, professeur Douba. Merci à l'honorable Fidel Babala. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Okapi. Thank you.